Les enjeux internationaux, Thierry Garcin, bonjour Thierry.
Et bonjour Marc Moinchet.
Et aujourd'hui, les conséquences pour le gouvernement israélien de l'attaque meurtrière d'une flottille humanitaire. Votre invité, Alain Dikoff, directeur de recherche au CNRS.
Et série Sciences Po, donc Alain Dikoff, bonjour.
Bonjour.
Alors, donc, l'attaque par Israël, c'était lundi dernier, le 31 mai, d'une flottille humanitaire en direction de la bande de Gaza. 9 morts, cela avait suscité une réprobation internationale. On peut se demander comment l'événement a été perçu en Israël, dans la classe politique, au Parlement, dans la presse. Est-ce qu'on s'est beaucoup interrogé sur les raisons et aussi les modalités de cette opération perpétrée de surcroît dans les eaux internationales? Et est-ce qu'on prend en compte un certain nombre, évidemment, de réactions américaine, européenne et celle aussi de l'ONU et du secrétaire général de l'ONU? Alors ça fait beaucoup de questions, mais est-ce que vous pourriez éventuellement tracer quelques éléments de réponse?
Oui, en effet, il y a beaucoup de choses dans votre question. Ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, et on l'a vu tout de suite à l'œuvre, le gouvernement a tenté de justifier autant que faire se peut cette opération aux conséquences tragiques, avec une série d'argumentaires, le premier étant que le blocus avait été imposé évidemment unilatéralement par Israël il y a 3 ans et que le gouvernement tenait absolument à ce qu'il ne soit pas rompu, et donc on a essayé de à partir de là, enfin le gouvernement essaie de justifier ce qui s'est passé en reportant finalement un petit peu la responsabilité des conséquences tragiques sur les responsables même qui avaient organisé cette expédition humanitaire. Bon, ce qui est évidemment à bien des égards tout à fait contestable. Mais je dirais que c'est un argument qui, en Israël, a pu porter dans une certaine mesure. Je pense que c'est essentiellement lié au fait que, si vous voulez, il faut bien comprendre que la société israélienne est travaillée depuis déjà un certain temps et surtout depuis les années 2000 par une sorte de retour du complexe de Masada, c'est-à-dire le sentiment d'être encerclé, de tout voir à travers des logiques où finalement l'ennemi est partout. Donc ça explique quand même que grosso modo il y a quand même eu un assentiment assez large de la population, même s'il y a eu des critiques très féroces par contre dans les journaux, critiques portant à la fois sur les modalités opérationnelles strictement militaires de l'opération et aussi critiques portant sur la dimension politique.
Oui, alors effectivement, le Premier ministre Netanyahou a dit que l'Israël était victime d'un assaut d'hypocrisie internationale. Est-ce que le thème de l'enquête est là aussi commenté, puisqu'il faut une enquête internationale, disent la plupart des observateurs. D'autres disent une enquête indépendante, impartiale, les adjectifs sont importants. Et certains dirigeants israéliens accepteraient l'idée d'une enquête internationale, mais évidemment en présence des États-Unis, des Américains.
Alors bon, a priori, la position du gouvernement telle qu'elle a été arrêtée hier soir, c'est de dire que il y a un rejet d'une commission internationale en tant que telle, c'est-à-dire telle que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, l'avait proposé. Ce qui en est fait plus en discussion, ce serait une enquête dont les contours à vrai dire ne sont pas vraiment déterminés, qui redonnerait finalement le contrôle pour l'essentiel à Israël, même s'il pouvait y avoir une sorte de vernis international. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est que il y a une lettre qui a été écrite par 10 officiers de réserve de la marine, qui a été rendue en partie publique et qui révèle, qui met en cause en fait les concepteurs de la mission, aussi bien au niveau militaire qu'au niveau de ceux qui l'ont approuvé, c'est-à-dire en clair au niveau de l'échelon politique.
Quand
on dit échelon politique, oui. Il est assez réduit cet échelon en réalité, parce que d'après les informations que l'on peut avoir, en fait, il semblerait que le feu vert ait été donné ultimement uniquement par 2 personnes, à savoir Barak, le ministre de la Défense, et le Premier ministre Netanyahou de l'autre, avec une vague, approbation implicite de 5 autres ministres. Voilà, c'est à ce niveau-là que la décision finale a été prise au niveau politique.
Est-ce qu'on a débattu aussi du caractère juridique, c'est-à-dire le fait que l'attaque meurtrière a été perpétrée dans les eaux internationales?
Alors là, je ne peux pas vraiment vous répondre précisément si cette question a été mise en avant, j'imagine que bien évidemment l'échelon politique a dû demander l'avis au service juridique, en particulier au niveau de l'armée, puisque l'armée a aussi un service juridique à elle, le gouvernement en a également. Sans doute les juristes ont-ils dû dire que cette attaque, de leur point de vue, pouvait quand même être justifiée légalement, ce qui, bon, à bien des égards, paraît, si on regarde la position de droit international, tout à fait contestable. Oui, certainement que ce débat a eu lieu, même si, à mon avis, il n'était pas prioritaire, parce que dans la logique prévalente, et on l'a vu à d'autres occasions, par exemple lorsqu'il y avait l'affaire des assassinats ciblés qui ont eu lieu contre une série de militants palestiniens au cours de la seconde intifada, en réalité la priorité c'est toujours la logique de sécurité, et finalement l'argument juridique vient un petit peu postérieurement pour tenter de donner légitimité à une décision qui est en fait au départ une décision fondamentalement sécuritaire.
Juste d'un mot à Ladikov pour conclure, le secrétaire général de l'ONU a demandé la levée immédiate du blocus contre-productif, intenable et immoral, fin de citation. Est-ce que le débat sur le blocus lui-même est quelque chose d'important en Israël ?
Important non, mais il est évident que ça a remis sur la table cette question, et certains ministres du Parti travailliste, en tous les cas, ont dit qu'il était temps maintenant de revoir ce blocus, peut-être pas de l'abandonner complètement, mais de mettre en place un système qui l'assouplirait, qui permettrait à la bande de Gaza de respirer plus qu'elle ne l'a fait au cours des trois dernières années.
Merci beaucoup en tout cas de cette analyse, Alain Dikov. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et série Sciences Po, franceculture.com. Et puis demain, nous allons partir pour le Grand Nord norvégien avec donc un entretien avec le ministre des Affaires étrangères norvégien, Jonas Gahr Støre, à propos des priorités du gouvernement.